Bonjour, nous sommes le lundi 29 janvier 2018, vous écoutez Radio Campus Paris, il est 14h et en 2018 à 14h, c'est toujours l'heure de la relève.
Je voudrais être footballeur professionnel, styliste.
Pilote d'avion de chasse pour m'engager dans l'armée et défendre la population et tout ça.
Bah, je voudrais devenir peintre, chef cuisinier, chef de commerce, biologiste.
La relève sur Radio Campus Paris.
La relève, c'est 30 minutes pour découvrir tous les 15 jours les nouveaux talents ou les nouvelles idées. Et comme en 2018, on a décidé qu'on n'avait peur de rien, aujourd'hui ce ne sont pas un ni même deux nouveaux talents que nous vous proposons, mais les talents, tous les talents d'un pays que nous vous invitons à découvrir avec notre invitée qui vient de réaliser un passionnant documentaire en 10 épisodes. Elle s'appelle Juliette Toin et elle nous emmène à Cuba. Juliette Toin, merci d'être parmi nous.
Bonjour.
Si pour vous, Cuba, c'est toujours ça. Ay, sabroso. Ay, sabroso. Ay, sabroso. El día que no me quieras, me lo dice rapidito. El día que no me quieras, me lo dice rapidito. Voilà, c'est Sabroso, Campey Secundo, vous l'avez sûrement reconnu, c'est un des héros du Buena Social... Oh là, Benoît, je ne sais pas pourquoi je vais essayer de parler en espagnol, ça va être terrible. Buena Social Vista Club, c'est ça, on dit comme ça ?
Buena Vista Social Club.
Ah, merci beaucoup, vous me sauvez. Et toi, ça c'est le Cuba d'hier ?
Oui, c'est le Cuba surtout qui a voyagé en Europe, donc oui. Alors effectivement, encore à Cuba, on écoute de la salsa et du son, heureusement. Mais voilà, comme vous pourrez le voir dans la série, il y a aussi d'autres genres musicaux.
Si à la réalisation, vous voulez bien en mettre un petit peu de Campey Secundo en fond sonore, ça vous inspire quoi, vous, quand vous entendez ça, justement? Vous l'avez découvert comme ça, Cuba, c'est d'abord la musique cubaine, c'est d'abord cette ambiance-là. Si je vous demande d'aller à vos souvenirs quand vous entendez ça.
Je l'ai découvert dans un documentaire, justement, qui était sur Buena Vista Social Club.
Celui de Wenders, donc, le documentaire de Wenders, le magnifique documentaire de Wenders.
Après, je l'ai découvert aussi dans des lectures plus politiques, voilà. Mais oui, ça me provoque, j'adore ces musiques-là, je les écoute encore. Donc,
Cette voix, cette langue, il y a un accent particulier. Moi, j'ai dit, je ne sais pas du tout parler espagnol, il y a un accent cubain qui est particulier, par exemple.
Il y a un accent cubain très particulier, beaucoup de personnes qui parlent couramment espagnol, voire qui sont hispanophones, ont du mal à comprendre. Il y a beaucoup de... ils mâchent leurs mots, ils enlèvent les « d ». Complicado, ils disent complicado. Il y a beaucoup aussi d'expressions bien cubaines. Donc oui, qui...
Alors, je l'ai dit en générique, je vais le redire, vous êtes Juliette Toin, vous êtes une toute jeune réalisatrice, vous êtes une jeune réalisatrice, et vous avez réalisé un documentaire, un 10 mini-documentaires qui font un ensemble qui s'appelle Cuba Underground. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce documentaire, justement? Comment on arrive j'imagine que vous avez vu le documentaire, vous étiez ado, à quelques années plus tard, à l'envie d'aller faire ce documentaire? Vous avez une histoire personnelle avec Cuba?
Oui, j'y ai fait mes études pendant 3 ans, donc c'est là où j'ai étudié le cinéma et l'audiovisuel. Donc ça s'appelle l'École internationale de cinéma et télévision de San Antonio de los Baños, qui n'est pas à La Havane, qui est à 25 km. Et donc voilà, j'y étais de 25 à 24 à 27 ans. Donc,
et pourquoi vous êtes allé à Cuba faire vos études de cinéma? Vous avez grandi en France ou vous avez grandi déjà hors des frontières françaises?
J'ai grandi en France, en Seine-et-Marne, la belle campagne seine-et-marnaise.
Côté Brie, côté...
Côté Brie, exactement.
On est très loin de la musique cubaine là.
Et donc en fait, non, j'ai eu un parcours, avant d'aller à Cuba, je vivais en Colombie et encore avant à Colombie, je vivais au Mexique.
Donc vous étiez attiré par l'Amérique du Sud et toute cette ambiance, que là c'est le plus la Caraïbe, mais toute cette ambiance-là, c'était ça qui vous plaisait, l'ambiance latino?
Oui. Alors je pense qu'aussi ça a été dû à un choix de parcours. À un moment donné, je suis partie faire un stage au Mexique et puis voilà, j'y suis restée, j'y ai fait mes amitiés. J'avais beaucoup d'amis, je me rappelle, au Mexique, qui me parlaient à l'époque de l'école de cinéma de Cuba, donc je pense que peut-être l'idée est venue de là, mais voilà.
Il y a une grande école cubaine, souvent dans les anciens pays communistes ou une tradition communiste, il y a quand même de l'argent qui est mis dans la culture, donc là il y avait une école vraiment...
Il y a une école reconnue, oui, mondialement, donc c'est une école internationale, il n'y a pas que des Cubains, il y a une partie, à peu près 10% de Cubains, et... Le reste des élèves sont partout ailleurs.
Et alors, si on accélère le temps entre ce moment où vous quittez Cuba pour revenir en France et pour exercer votre art et le moment où vous y retournez pour faire ce documentaire, comment vous est venue l'idée de ce documentaire, justement? Vous avez rencontré des gens d'Arte, puisque, je ne sais pas si j'ai dit, mais les documentaires sont disponibles sur la plateforme d'Arte, et c'est très facile à trouver.
Oui. Alors l'idée ne vient pas de moi, à la base, vient du producteur qui s'appelle Tancred Ramonet, qui lui aussi a été à Cuba. Donc je l'ai connu à Cuba quand j'étais à l'école, il était professeur. Et quand je suis rentrée en France, bon, il y a eu un peu toute cette vague, Cuba s'ouvre au monde, les Rolling Stones, le défilé.
Ça c'est quoi, il y a 3-4 ans?
Non, c'était il y a un an.
Ah oui.
C'était... Bon, après c'est vrai qu'avec Obama, il y a eu aussi une ouverture des relations diplomatiques. Mais donc voilà, donc les médias étaient prêts à parler de Cuba.
Ah ouais, et donc vous avez saisi la vague comme une surfeuse.
Voilà. J'avais tenté avant de placer des films sur Cuba, non, ça n'a pas intéressé.
Mais en un an, vous avez eu le temps de faire 10 fois 7 minutes parce que vous avez fait 10 petits films, en fait, c'est 70 minutes de films.
Ouais.
Je suis assez impressionné comment vous avez fait.
Eh bien, je suis... Bon, déjà,
peut-être parce que vous connaissiez déjà le terrain.
Voilà, je connaissais déjà très bien le terrain. Il y a des personnages qui interviennent dans le documentaire que je connaissais déjà quand j'étais étudiante. On avait déjà bossé ensemble. Je pense notamment à l'acteur qui est aussi transformiste.
Qui est dans l'épisode sur les LGBT.
LGBT, voilà.
C'est celui qui chante Mary Mathieu?
Oui. Il a un
c'est
répertoire...
impressionnant. On découvre que la France est très populaire dans les clubs LGBT de Cuba. Ça, c'est très bizarre.
Ouais, bah lui, je pense que ça tient de lui parce qu'il est Mireille Mathieu, Dalida et...
Edith Piaf,
ça fait partie de son répertoire. Donc
rien de rien, il ne regrette rien.
Voilà, en plus. Donc c'est très symbolique.
Et donc, vous l'aviez rencontré à l'époque et donc très vite, vous avez réussi à le monter. C'est une production donc très rapide.
Ça, c'est assez rapide.
On va parler après de Cuba, mais moi, ça m'intéresse
comment on fait les films. Donc, en fait, c'est le producteur qui, avec la personne d'Arte,
le directeur de programme,
voulait faire quelque chose sur Cuba. Et, vu que Arte Creative, c'est quand même un programme culturel, on était parti sur un peu la culture à Cuba et on voulait éviter justement de faire comme d'habitude, parler de la salsa, du son. On voulait un peu éviter ces sentiers battus. Donc voilà, ils m'ont proposé l'idée que j'ai trouvée très chouette et j'ai commencé à proposer une série de thématiques. Voilà.
Et c'est vous qui avez choisi, le format vous imposé à ce moment-là par le diffuseur, par la plateforme.
Oui.
On vous dit c'est 10 fois 7 minutes, vous auriez préféré faire à 1h, 1h30 peut-être ?
C'est vrai que c'était la première fois que je faisais ce format, parce que c'est vraiment, le format induit vraiment le fond. Donc, par exemple, là c'est des petits formats, donc c'est assez superficiel.
Moi je suis pas d'accord parce qu'à chaque fois vous arrivez bien à raconter une histoire et une histoire qui raconte plus que l'histoire des personnages.
Je vous remercie.
Alors justement, il y a 10 épisodes, on y parle de twerk, de skate, de bagnole, de rap, d'électro, de tatouage. Comment vous avez choisi les thèmes? Vous avez choisi volontairement des thèmes qui sont en écho avec ceux des jeunes d'aujourd'hui?
Alors je me suis posé la question, cette jeunesse, où elles vont, qu'est-ce qu'elles font, quel milieu artistique s'exprime en dehors, donc justement pour revenir à ça, de la salsa et du son. Et finalement, c'est un peu contre... j'ai pas fait exprès, c'est on retrouve les mêmes cultures alternatives et underground que partout ailleurs. Ils écoutent de l'électro, ils écoutent du rap US.
Ils écoutent même du métal, on découvre que la scène métal cubaine était un peu mieux il y a un an. Hein. Déjà, même là-bas, c'était mieux avant.
Oui, parce que donc en fait, c'est vrai qu'il y a une grande. Voilà, faut remettre tout dans son contexte. Hein. Cuba, la Havane, c'est petit. Donc quand je dis une grande scène métal, enfin, faut le remettre dans son contexte. Mais oui, il y avait un lieu très, très symbolique pour le métal qui s'appelait le Maxim Rock et qui accueillait tous les concerts de la capitale. Et il a fermé ce lieu, donc ces groupes se retrouvent un peu sans espace pour faire leurs concerts.
Et tous ces jeunes qu'on voit dans ces 10 épisodes, ils sont représentatifs d'eux-mêmes ou ils représentent plus globalement toute la jeunesse? Ou là, vous avez vraiment pris une jeunesse un petit peu d'avant-garde? Le reste de la jeunesse continue finalement à écouter la musique, écouter leurs parents, peut-être des choses plus classiques.
Alors, ça reste une minorité. Voilà, c'est pas du tout.
C'est pas le mainstream que vous nous montrez.
Non,
c'est vraiment
du tout. C'est la minorité. C'est vraiment c'est des groupes marginaux en fait dans la culture cubaine. Alors, il y a un épisode qui est un peu à cheval, c'est reggaeton, parce que c'est vrai qu'en fait la jeunesse cubaine n'écoute. Alors, il y a toujours ce romantisme de ce qu'écoutaient leurs parents. Évidemment, ils dansent la salsa et ils le font très bien. Mais le reggaeton s'est emparé de l'île. Donc voilà, donc on va dire que je dirais bien 80-90% de la jeunesse écoute du reggaeton maintenant.
Épisode après épisode, on se demande si ça a été long à tourner, difficile à tourner, parce que vous en avez fait 10, même si vous connaissiez le terrain. Donc, comment concrètement vous avez fait?
Alors c'est 10 mondes différents, donc c'est ça qui est compliqué à rentrer dans ces 10 mondes. 10 mondes, donc il y a 2 personnages par épisode, ce sont 20 personnes.
Toujours un prologue avec les sous-titres
qui
racontent l'histoire, qui recontextualisent très rapidement.
Exactement, les cartons qui recontextualisent pour ne pas perdre le spectateur.
Et vrai, à chaque fois, il y a deux personnages que je n'avais pas réalisés. Ouais, c'est vrai, oui.
C'est vrai, c'est vrai. Donc, on montre un peu, deux facettes de cette culture qui sont complémentaires ou pas.
Et donc, à chaque fois, vous avez pris une semaine, par exemple, pour faire...
Alors non, quand on fait un documentaire, on dépend beaucoup du budget du film. Et le budget du film étant une série web n'atteint pas les budgets de fiction, évidemment, ni encore les budgets de documentaires qui sont diffusés à la télévision. C'est un peu le genre pauvre du documentaire, du cinéma et en plus du documentaire.
Vous êtes dans la pauvreté au carré.
Ouais.
Vous faites quoi? Vous faites 2 minutes utiles par jour?
Donc voilà, il y a des producteurs, des producteurs qui gèrent le budget et qui donc attribuent l'argent aux phases de production. Donc là, c'était le tournage. Et nous avions une journée et demie de tournage par épisode, ce qui était très ric-rac. Mais vous dans tous les sens.
Vous aviez beaucoup préparé avant?
Alors oui, il y a toute une phase de préparation. On avait même une personne sur place qui a fait le rôle d'assistant de réalisation, qui a commencé à déblayer un peu avant que j'arrive.
Ça fait quoi? Vous avez tourné pendant 15 jours?
On a tourné sur un mois, parce qu'on n'a pas tourné un mois d'affilée. Moi, je m'y suis rendue 3 semaines avant, donc pour aussi rencontrer les personnes. Il y a 3 semaines, on va dire, de repérage, vraiment rencontrer les gens.
Réinterviewer pour voir.
Exactement.
Ce qu'on n'a pas fait, nous, avant de commencer. on fait du direct. Ou presque. Donc à chaque fois, vous avez eu une journée et demie il ne faut pas se tromper, quoi. Il faut avoir trouvé les bons personnages, les bons jours.
Il fallait très bien préparer. Et puis, il faut courir, quoi, à droite, à gauche. C'est d'une intensité. C'est ce qui donne aussi, peut-être, un peu d'authenticité à la série aussi. Bon, voilà.
Alors, moi, dans la série, il y en a un que j'ai beaucoup aimé, c'est celui sur le skate. Je ne connais rien au skate, mais déjà en France. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans celui sur le skate, c'est qu'on les voit, on voit une jeunesse qui se prend en main. J'adore cette histoire du skatepark qu'ils sont en train de construire. Ils ont un skatepark officiel, mais ils n'aiment pas trop y aller parce que, si j'ai bien compris, il est sur un étang et il est souvent inondé. Ouais. Et ils décident d'en construire un. Et les gars, oui, parce que c'est surtout des garçons, là, ils expliquent, on le fait. Et puis, comme ça, les jeunes, ils iront moins faire les idiots. Est-ce que c'est globalement, on peut dire ça, de la société cubaine? C'est une jeunesse qui se prend en main et qui essaie de trouver des solutions?
C'est une société un peu de la débrouille. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas toutes les facilités qu'on a. Et donc, ils doivent eux-mêmes, il y a un mot très particulier, inventamos. Ils inventent, en fait, pour pouvoir faire des choses.
Ouais, ça, on le sent très bien dans votre documentaire. On les voit très à la... Ouais, on n'a rien, mais on va faire, quoi. Ouais. On prend 3 bouts de machin et on construit un skate. Ça, c'est ce que vous vouliez montrer?
Oui. C'est-à-dire que, je voulais montrer que cette jeunesse, malgré tout, arrive à faire des choses. Alors, évidemment, oui, il n'y a pas tous les skate shops, si on parle du skate, ou si on parle du tatouage, il n'y a pas tous ces magasins qui vendent de l'encre.
Ouais, mais c'est génial. Ah, je vais pas raconter tout parce que. Mais par exemple, sur le skate, c'est génial. Il y a un moment quand il y en a un qui raconte que sa grand-mère lui a enfin ramené un skate des États-Unis parce qu'il avait un skate cubain qui était visiblement pourri. Et il est tout content et il dit, et ce qui est génial, c'est qu'il dit, pour une fois, j'étais content de la revoir, je crois.
Exactement. Donc, mais ça reflète énormément, en fait, parce que beaucoup de ces jeunes et de ces cultures, en fait, reposent beaucoup sur les familles, la famille qu'ils ont à l'étranger et qui leur envoie du matériel.
Ouais, et pareil pour le tatouage, ça vient de Chine. Alors là, j'imagine, ça va être la famille qui va en Chine qui leur ramène. Est-ce que ça donne l'impression qui transparaît de vos films, c'est qu'ils ont une énergie extraordinaire, tous ces jeunes.
Ils ont beaucoup de mérite, surtout. Parce que nous, on a tout mâché maintenant dans notre société. Tout est mâché, tout est à portée de main et pas pour eux. Donc ils ont encore autant plus de mérite.
Que defiendo son diferentes, le dan voz a la mujer, son bastante feministas, yo me considero feminista un poco bastante. Creo que es lo que de cierto modo ha dado el gustito, la clave para que haya funcionado lo que estamos haciendo.
¿Sabes qué pasa? ¿Que quién dice que el cielo puede, nosotras no?
Alors ça, c'est... Alors pardon, ce que vous venez d'entendre et que vous entendez encore en fond sonore, c'est Senorita Diana. C'est sous-titré dans le documentaire. Là, c'est un extrait de votre documentaire. Et donc, elle dit « Celle qui veut du sexe, c'est moi. Celle qui va te faire la fête ce soir. » Elle dit pas ce soir, ça c'est moi. C'est moi. Et elle est devant une salle d'ados qui sont tous médusés. Elle est extraordinaire, cette fille. Vous l'avez rencontrée pendant vos études? Vous l'avez rencontrée pendant le documentaire?
Non, du tout. Je l'ai rencontrée pendant le documentaire. Et d'ailleurs, c'était un monde assez inaccessible comparé aux autres mondes.
Ah oui,
les reggaetoneros. C'est un peu les stars de Cuba et ils se prennent un peu pour des divas. Alors, tout mon respect pour ces personnes-là, hein, mais c'est vrai que ça a été très difficile de...
Qui cette fille-là, elle se prend pour une diva ou c'est en général?
Non, mais ils ont un agent qui... Enfin bon, voilà, tout est vraiment très un peu comme dans...
Oui, comme si vous alliez voir le showbiz à Paris.
Voilà,
quoi.
Exactement. Donc, c'est très difficile. Et encore plus, les autres qui sont... les autres reggaetoneros qui sont, eux, vraiment les plus connus de Cuba, donc... Alors j'ai un trou de mémoire, je ne me rappelle plus comment ils s'appellent.
Mais ils sont très bien, on les verra dans les documentaires. On découvre aussi que le twerk, qui est ce mouvement particulier du bassin, si là encore j'ai bien compris, je ne suis plus très jeune, mais j'ai cru comprendre que c'était... Alors c'est interdit, hein, mais en même temps on a l'impression que tout le monde en fait.
Ça, c'est interdit. Non, c'est pas interdit. Le...
Ah,
alors
pas
le twerk,
compris, alors.
C'est vraiment ce...
c'est
ces femmes qui bougent
Beyoncé,
les fesses,
quoi, ouais.
Voilà, exactement. C'est un nom, là, à Cuba, ça s'appelle le perreo. Ça vient de perrear, el perro, c'est le chien.
Oui.
Donc voilà, c'est le mouvement de bassin très latin qui caractérise.
Et c'est une société machiste, non? Plutôt Cuba, normalement, enfin, j'imagine, les Caraïbes, mais peut-être un cliché de ma part, donc je vais vous demander. Elles sont vues comment, ces filles-là?
Alors, c'est à différents niveaux. C'est vrai qu'on va dire dans le niveau de la culture, les relations hommes-femmes, parce qu'au niveau politique et au niveau, bon, c'est assez, on va dire, même l'avortement est légal. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la culture, toujours, les relations hommes-femmes, oui, c'est assez machiste. Et le reggaeton véhicule énormément ces idées... très sexiste.
Alors, on découvre aussi dans votre documentaire, on a un tout petit peu parlé tout à l'heure en évoquant la grande Mireille Mathieu, c'est un peu ironique de ma part. Alors, on découvre qu'il y a un théâtre Karl Marx à La Havane et que là on y donne une grande fête. J'ai pensé à toute la bondurerie, c'est pas le bon mot, mais tout le puritanisme parfois des communistes purs et durs. Ça m'a beaucoup fait rire d'imaginer une fête LGBT au théâtre Karl Marx.
Alors effectivement, je pense qu'en fait Cuba a pris un tournant il y a peu par rapport aux cultures LGBT. C'est vrai qu'ils ont été très décriés dans les années 80-90 avec des politiques très sévères et une mentalité très rétrograde par rapport à l'homosexualité.
Ouais, il y a le film d'Alfredo Reynas qui, je ne sais plus, j'ai oublié le titre, qui est quand même juste épouvantable.
Oui, hein. Oui. Alors je le connais très bien ce film, mais je vais avoir aussi oublié le titre.
Mais moi aussi, donc ne vous inquiétez pas, on est deux. Je crois que le réalisateur s'appelait Julian quelque chose, mais c'est pas grave. Après la pluie peut-être, non?
Oui.
Ça doit être ça, je prends un titre comme ça.
Non, c'est pas après la pluie, mais...
Après la nuit, il y a la nuit dedans.
Ah, bon.
Bon, et donc, il y a une libération de la parole, on cherchera pendant la pause musicale.
Oui, d'autant plus que la fille de Raúl Castro, Mariela Castro, est la directrice du CNESEX, qui est le centre de la sexualité, et qui a fait énormément de choses qui vont justement pour l'amélioration des droits LGBT. Donc, c'est vraiment porté par le gouvernement.
Ouais, on voyait une gay pride même.
Oui.
Il y a du monde, non?
Oui, il y a du monde, il y a beaucoup de monde.
Ouais, il y a 10 ans, c'était impossible, ça.
Il y a 10 ans, alors cette Gay Pride doit à peu près avoir 10 ans, justement.
Ah, ouais, donc, c'est encore avant.
C'est un peu encore avant.
Souffrez que mes mots dépassent le peu de raison que je tienne quand vous laissez ma peine en disgrâce. Devant votre indifférence, je perds un amour immense pour lequel j'avais au départ, comme au jeu de hasard, peu de chance. Long est le chemin qui me mène vers le nouveau monde, aussi longue est la nuit qui me fait penser à vous. Thank you.
jaloux, jamais en vous, cet orgueil qui se joue d'insolence. Des opéras de misère vous feront gloire de l'enfer, où je vais tomber à genoux en découvrant le goût de l'absence.
Comme on parle de Cuba, on a cherché la chanson qui l'évoque le moins, et avec William Scheller et son Nouveau Monde, un rock aux sonorités baroques, on s'est dit qu'on avait trouvé.
La Relève, tous les lundis à 14h sur Radio Campus Paris.
Il doit être 14h20 environ, vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, vous écoutez La Relève, et pendant la pause, on en a profité pour se jeter sur nos téléphones. Alors moi, le film, on parlait pas en fait du même film, on est toujours avec Juliette Toin qui vient de réaliser Cuba Underground, une série de 10 mini-documentaires de 7 minutes qu'on peut trouver sur Arte Créative. Donc moi, le film dont je parlais, c'est Avant la nuit, on n'en parle pas plus, mais vous, vous parliez de Fraises et chocolat, si vous voulez en dire un mot.
Fraises et chocolat, c'est réalisé par un grand réalisateur cubain qui s'appelle Tomás Gutiérrez Alea. Et voilà, donc ça parle
c'est un peu un film symbolique de la libération sexuelle.
Voilà, exactement, qui a été fait dans les années 93 en plus, donc c'était vraiment encore dans une période où Cuba avait du mal avec l'homosexualité. Donc voilà.
Excusez-moi, je vais vraiment passer à autre chose. Mais en regardant vos films, je me suis demandé si la seule chose qui est restée du communisme, ce sont les Lada qui sont des bonnes voitures pour jouer faire des Fast and Furious. Il reste plus que ça pour les jeunes aujourd'hui du communisme.
C'est une question assez difficile. Je ne sais pas. Alors non, je pense qu'en fait, il reste encore beaucoup de choses. Ils ont quand même été à l'école où on leur a
appris l'histoire du communisme. Ils vont au théâtre Karl Marx, donc s'ils veulent aller au festival LGBT.
Voilà. Non. Je ne saurais pas répondre à cette question. Je suis désolée. Je pense qu'ils ont toute une
La culture communiste. Les Lada sont présentes. Très... Et donc ce qu'on voit, c'est que la Lada, c'est une bonne voiture pour Cuba. C'est ce que j'ai découvert.
Pour ceux qui font du tuning, parce que donc ils connaissent très par cœur ces voitures, et donc s'ils la cassent un petit peu en faisant des 360 ou faisant des courses illégales.
Les courses sont géniales. C'est vraiment la fureur de vivre. On a l'impression de voir des... Justement, les États-Unis pour ces jeunes, c'est un modèle. C'est quoi pour eux? C'est la terre promise. C'est là où ils aimeraient être.
Ça dépend. Il y a des jeunes qui justement depuis tout petit, on leur inculque le rêve américain. Donc ils n'ont qu'une envie, c'est de partir, évidemment. Et il y en a d'autres qui sont partis, qui sont revenus. Donc voilà, ils ont goûté un peu de ce rêve et finalement ils se sont rendus compte que c'était pas si mal à Cuba. Et puis il y en a d'autres qui sont très bien à Cuba. Donc il y a de tout en fait.
On voit bien quand même que la culture mondiale jeune, elle est très... Enfin en tout cas, chez ces jeunes-là qui sont à l'avant-garde, elle est très présente. Ce que je disais tout à l'heure, on parle de skate, on parle d'électro, on parle de rap, on parle de comment ça s'appelle, pardon, je vais pas retrouver le terme, donc c'est pas grave, voilà. Mais ils ont envie de...
Ils voulaient du crump et des b-boys.
Mais c'est ça, et ils ont envie de faire la même chose que tout le monde, quoi, finalement.
Voilà, et surtout depuis peu, ils ont eu un accès beaucoup plus...
C'était ma question à Internet, c'est ça?
Oui, voilà, c'est ça, exactement. Donc c'est vrai que c'était beaucoup plus facile de s'influencer des cultures extérieures.
Vous, quand vous y étiez, il y avait Internet ou pas?
En 2010, non, il n'y avait pas Internet. Nous, on l'a eu un an après dans l'école.
Et là, j'y suis retournée. Donc, le Wi-Fi, maintenant, ils ont mis le Wi-Fi dans les parcs.
Oui, parce que là, il y a un moment, on les voit dans les parcs. Ils cherchent, ils veulent répéter des mouvements. Alors, je ne sais pas quelle danse. On a un peu de la tectonique, mais en beaucoup plus beau. Et on les voit, quoi. Ils disent, ça ne marche pas. Bienvenue à Cuba en rigolant.
Les parcs, c'est vraiment le lieu où il y a Internet, où les gens vont se connecter à l'ancienne avec une petite carte, où ils rentrent le numéro, leur password, etc.
Et oui, on sent bien, de ce qu'on voit dans votre documentaire, on voit bien que ce qui les intéresse, c'est de voir des modèles qu'ils imitent. Quoi. Les skateurs, on voit ça chez les skateurs, on voit ça chez les crumpers.
Ben, c'est vrai que c'est compliqué d'apprendre tout seul. Comme ils le disent, nous, on ressasse les mêmes trucs, en fait. Parce qu'ils n'ont pas de... Ils savent pas. Alors, ils ont des cousins qui viennent, qui habitent à Miami, par exemple, qui viennent et qui leur montrent des nouvelles choses. Mais sans Internet, c'est vrai qu'ils tournent un peu en rond quand il s'agit de faire des choses techniques.
Je me moquais tout à l'heure, mais dans les crumpers, il y a un danseur qui est extraordinaire. Hein. Il y a un des jeunes qui est fabuleux.
Oui, Adam.
Il a appris tout seul, c'est ce qu'il raconte.
Ah oui, il a appris tout seul avec des vidéos.
Il est incroyable. Hein. Et vous avez mis du temps à le trouver, lui?
Alors, est-ce que j'ai mis du temps? Non, parce qu'en fait, on est allé à un contest. Il y a une salle un peu où il y a toutes les cultures underground qui font leur truc. Et il y avait un contest de danse, b-boys et crumper. Et donc, en fait, son frère, c'est celui qui a gagné le contest. Donc voilà, j'aimais beaucoup le fait que ce soit deux frères, parce qu'à un moment donné, ils se sont rencontrés en battle, et c'était assez beau de les voir danser ensemble.
C'est un très très beau moment du film, vraiment. Vous avez eu des problèmes avec les autorités quand vous avez voulu faire ce film? Il faut des autorisations, c'est simple, il y a des gens qui n'ont pas voulu parce qu'ils n'ont pas envie qu'on les voit, enfin qui n'ont pas voulu, pardon.
Alors, ça n'a pas été compliqué, parce qu'on est passé un peu par on a fait les choses en bonne et due forme, on a demandé l'autorisation à l'ambassade de Cuba en France, qui ont demandé l'autorisation au centre de presse, etc. C'est beaucoup de bureaucratie, mais on a eu donc l'autorisation de filmer, donc c'est un peu feu vert. Et c'est vrai que si on avait la chance, donc moi j'avais étudié à Cuba, le producteur avait déjà été beaucoup à Cuba, donc on a eu de la chance. C'est vrai que des fois c'est beaucoup plus compliqué, ils peuvent refuser que des journalistes ou des réalisateurs viennent filmer.
Ces gens que vous avez filmés, ils ont pris des risques en vous parlant?
Non. Alors après, ils ont mesuré leur parole, ils ne sont pas bêtes, ils ne vont pas les chercher, ils sont assez diplomates.
Oui, mais d'ailleurs, le petit qui se plaint qu'il n'y a pas de... Quand il dit ça, c'est Cuba, il le dit de façon très polissée.
Hein, oui,
et très ironique, en chantant, c'est génial, j'aime beaucoup. Parce qu'à plusieurs reprises, ce qui frappe surtout, ce n'est pas tant qu'ils n'ont pas le droit, c'est qu'ils sont entre la légalité et l'illégalité. Voilà. On ne sait pas trop, ils sont dans une zone grise. Mm-hmm. Et c'est quelque chose qui est peut-être difficile à vivre quand on ne sait pas si on a le droit ou pas.
Tant qu'en fait, oui, exactement. C'est-à-dire que quand ils sont, par exemple, prenons le tatouage comme exemple.
Ils n'ont pas le droit, a priori.
Ni légal ni illégal. Donc, ils vont pouvoir exercer pendant un certain temps sans aucun problème leur art. Et puis d'un coup, on va pas comprendre pourquoi. Les services d'hygiène vont débarquer et vont dire non, c'est pas possible. Donc, en fait, cette non légalité ni illégalité fait que ça, ils savent jamais où se situer si à un moment donné on peut venir les embêter.
On n'a plus beaucoup de temps, je vais vous poser deux questions, je vous demande des réponses très courtes. À quoi rêve cette jeunesse?
À quoi rêve cette jeunesse?
C'est une question très générale, je vais vous poser, très dure. Alors je vous en pose deux, vous choisissez celle que vous voulez.
D'accord.
Ou de quoi vous a-t-elle semblé avoir peur?
D'accord, je prends à quoi rêve cette jeunesse. Je pense que cette jeunesse rêve à ce que Cuba ne soit plus un petit musée.
Pourquoi nous on y va parfois, parce qu'il y a les vieilles voitures, ils ont envie d'avoir les mêmes voitures que tout le monde.
Voilà, je pense qu'ils rêvent aussi d'avoir une situation économique qui leur permette de pouvoir voyager.
Ouais. Bien qu'il n'y ait pas le générique mais vous pouvez continuer à parler.
Et à quoi rêve-t-il d'autre? Je pense qu'il rêve, par exemple, pour des chanteurs, à pouvoir
d'être reconnu,
d'avoir...
Moi, ce danseur, j'aimerais que tout le monde le connaisse.
Un label, par exemple, eux-mêmes le disent. J'aimerais que je puisse aller danser à l'international et me mesurer à d'autres grandes tailles.
Ils ont encore du mal à sortir?
Oui, et c'est la principale raison maintenant est économique. Donc,
Vous êtes retourné à Cuba depuis ces films?
Non.
Si,
j'y étais en décembre, pardon, j'étais tout le mois de décembre.
Vous allez leur présenter, vous en rêvez?
Et oui, il va être diffusé au festival qui s'appelle Muestra de Cine Joven, donc c'est le festival de ciné jeune. Voilà, il va être diffusé en avril, donc à Cuba, dans les salles de cinéma cubains, donc tout le monde sera invité.
C'est un très très beau retour des choses. Juliette Toin, merci beaucoup d'être venue pour cette demi-heure. Je redonne le titre, ça s'appelle Cuba Underground, c'est sur la plateforme Arte Créative, c'est très simple à trouver. Il y a 10 épisodes de chacun 7 minutes, et c'est 10 épisodes fantastiques. fantastique. Enfin, moi, j'ai adoré. Donc, vraiment, je vous recommande à tous de regarder. Voilà, vous venez d'écouter La Relève, une émission réalisée par l'excellent Louis Julien et son talent. Elle était présentée et préparée par Christophe. Merci encore, Juliette Toin, d'être venue avec nous. On se retrouve dans 335 heures pour un nouveau numéro de La Relève. D'ici là, on vous mettra le lien des vidéos donc de Juliette Toin sur la page Facebook de La Relève et on essaiera un jour de mettre les émissions. Ça finira bien par arriver depuis le temps qu'on le dit. Allez, bonne année 2018.